Comme je vous le disais tantôt, Yvan Deslauriers est absent cette semaine. Alors, Monique Kirouac a eu la générosité de préparer plus de sujets. On vous retrouve, Monique, des choses à dire donc sur le cerveau. Le cerveau déciderait-il de notre poids?
Eh, mon Dieu! C'est terrible, hein?
Grande question!
Grande question! En fait, Hélène, les chercheurs de l'Université Laval et du Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et donc de l'Université Laval se sont penchés sur cette grande question et ils ont identifié une soixantaine de protéines exprimées dans le cerveau qui pourraient exercer une influence positive ou bien négative sur le poids corporel. Voici donc ce que nous révèle le professeur Benoît Arsenault qui a mené cette étude donc à l'Université Laval, comme je vous le disais. Alors, il nous dit que lorsqu'on regarde là où les gènes qui contiennent des variations génétiques qui sont associées au poids, la plupart du temps, on pourrait penser qu'elles sont exprimées dans des tissus comme notre tissu adipeux, dans nos réserves de graisse, quoi. Mais finalement, c'est pas tout à fait le cas. C'est plutôt dans le cerveau que les variants génétiques associés au poids sont exprimés. Alors, qu'est-ce qu'ont trouvé les chercheurs? Ils ont déniché des protéines en croisant le profil génétique de quelque 800 000 personnes. C'est ce qu'on appelle un échantillonnage étendu, n'est-ce pas? De descendance européenne avec des banques de données d'expression des protéines dans le cerveau. Et semble-t-il, la soixantaine de substances identifiées, ben, c'est un chiffre conservateur. Les chercheurs se sont donc concentrés plus spécifiquement sur le cortex préfrontal dorsolatéral. Alors ça, Hélène, j'ai cherché, bien sûr, pas dans le dictionnaire comme on faisait autrefois, mais sur Internet, et c'est la partie vraiment supérieure avant là, de notre cerveau. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, pourquoi d'ailleurs? C'est parce que cette région du cerveau, c'est celle qui influencerait entre autres la sensibilité au sentiment de récompense qui est, on le devine, associé à la prise alimentaire et comme la sensation de plaisir à manger un aliment gras ou sucré. Cette région jouerait aussi un rôle dans la régulation de l'appétit et de la satiété, ainsi que dans certaines fonctions cognitives comme la prise de décision et la mémoire. C'est le cerveau qui contrôle notre prise alimentaire. C'est le cerveau qui va contrôler le sentiment de satiété après la prise d'un repas. C'est notre cerveau qui va nous dire quand manger. C'est notre cerveau qui va nous dire quand arrêter de manger. C'est notre cerveau qui va percevoir des signaux dans notre environnement qui sont associés à la prise alimentaire. On pense, entre autres, Hélène, aux odeurs, aux souvenirs par rapport à des moments qu'on a passés, par exemple peut-être chez nos parents, chez nos grands-parents qui nous mijotaient des petits plats des plus savoureux. Eh bien, c'est le cerveau qui contrôle tout ça.
Il y en a des responsabilités, ce cerveau.
Oui. Fait que là, on dirait que notre cerveau est dégagé de notre corps, là. On ne sait pas trop. Alors, les facteurs génétiques qui pourraient donc expliquer de 50 à 75 de la variance de l'indice de masse corporelle, ce qu'on appelle l'IMC dans la population. Ça pourrait expliquer en partie pourquoi cet IMC varie de façon importante d'une personne à l'autre. Vous demandez peut-être comment on calcule l'IMC, mais vous pouvez aller en ligne, mais c'est à partir de notre taille et de notre poids. Il y a un calcul qui vous entre ces données, puis le calcul se fait automatiquement, puis on va vous dire, ah, votre masse corporelle est trop élevée ou pas assez élevée. Cette découverte jette donc un éclairage sur l'interaction qui existe entre le cerveau, le poids, mais aussi une dimension non négligeable, Hélène, l'environnement. On constate en effet que les individus qui ont une prédisposition génétique à avoir un poids élevé ont un poids plus élevé qu'auparavant alors que les individus qui n'ont pas cette prédisposition étaient minces avant et sont encore minces aujourd'hui. Donc, les experts disposent aujourd'hui des données nécessaires pour scruter l'évolution de la situation. Ils constatent que dans les années 1960 et 70, l'indice de masse corporelle des gens qui avaient une prédisposition génétique à avoir un surplus de poids n'était pas si élevé. Mais aujourd'hui, précise M. Arsenault, leur IMC est beaucoup plus élevé qu'auparavant, donc on parle vraiment d'une interaction entre nos gènes et notre environnement. On se rappelle, Hélène, on avait appris le mot épigénétique. C'est une manifestation de l'épigénétique. Il n'est pas seulement question donc de l'environnement alimentaire, nous rappelle toujours M. Arsenault, le stress, le manque de sommeil, l'accumulation du temps d'écran et la sédentarité sont autant de facteurs qui auront un impact sur le poids corporel.
Ouais, en ce qui concerne toutes ces facettes, on était plus au courant. On était assez au courant.
Oui, on était assez au courant.
Mais c'est bien de nous rappeler.
On en a parlé plusieurs fois. Ouais. Alors, ça déboulonne aussi un peu plus le mythe selon lequel les personnes en surpoids le sont parce qu'elles sont paresseuses ou qu'elles manquent de volonté, puisque des mécanismes neuronaux inconscients sont vraiment en jeu. Monsieur Arsenault souligne que l'étude démontre qu'on a beaucoup moins de contrôle qu'on pense sur notre poids corporel. Donc, effectivement, pour les personnes, qui vont faire des tentatives de perte de poids, pour l'immense majorité, ça peut fonctionner sur quelques semaines, quelques mois même. Mais selon lui, à long terme, dans la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Dernier élément à cette recherche, les protéines donc identifiées par M. Arsenault et son équipe pourraient un jour être modulées pour influencer le poids du patient, soit en réduisant l'effet de celles qui favorisent la prise de poids ou en augmentant l'effet de celles-ci qui ont l'effet inverse. Certains médicaments déjà utilisés dans la perte de poids agissent sur le cerveau, mais on ne sait pas si leur effet passe par ces protéines. Alors, bon, on va sûrement entendre parler de prochaines recherches en complément de celles-ci. Mais comme je vous disais en introduction, Hélène, je me suis dit, il me reste un petit peu de temps, je vais parler de la recherche d'Amy Reichelt, qui est de Western University. Alors, elle nous rappelle, ben, on le sait, qu'il vaut mieux éviter les bonbons, la crème glacée, les biscuits, les gâteaux, les boissons gazeuses, mais c'est parfois très difficile d'y résister.
Mais surtout avec la Pâque qui s'en vient, là. Et de toute façon, il ne faut pas se priver complètement parce que ça fait partie des plaisirs de la vie.
Il y a une façon de bien gérer tout ça. Alors, elle nous dit, c'est comme si notre cerveau était programmé pour avoir envie de ces aliments. Bon, c'est ce que vient de nous dire M. Arsenault, notre cerveau contrôle à peu près tout. Lorsqu'on mange des aliments sucrés, le système de récompense du cerveau, que l'on appelle le système dopaminergique mésolimbique, est activé.
Et ça, combien de lettres dans ce mot-là?
Ah, pardon?
Il y a combien de lettres dans ce mot-là?
C'est deux mots.
Ah, OK, d'accord. Mais quand même, c'est impressionnant.
Mésolimbique. Alors ça génère la dopamine. On le sait, la dopamine, c'est une substance chimique qui est libérée par les neurones qui signale qu'un événement est positif. Donc, quand le système de récompense se déclenche, il renforce des comportements qu'on devient ensuite plus susceptible de répéter. Donc, indépendamment du besoin de se nourrir pour alimenter le corps, beaucoup de gens vont éprouver des fringales, en particulier lorsqu'ils sont stressés, affamés ou simplement confrontés à un bel étalage de gâteaux dans un café, dans une pâtisserie ou chez des amis. Alors, pour résister à ces envies, il y a un réseau de neurones inhibiteurs qui permet de réguler nos comportements. Ces neurones sont situés dans une zone du cerveau impliquée dans la prise de décision, la maîtrise des impulsions et la capacité de retarder la récompense. Et ça, entre autres, grâce à un changement dans notre alimentation. On y revient.
Et oui, toujours.
Alors, l'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter la consommation de sucre ajouté à 5 % de notre apport calorifique quotidien, ce qui représente environ 25 grammes, Hélène, c'est soit 6 cuillères à café. semble-t-il que l'adulte canadien mange en moyenne 85 grammes, soit 20 cuillères à café de sucre par jour. On voit que...
Énorme!
Oui, si on veut modifier, c'est énorme. Mais il faut savoir que les capacités de neuroplasticité du cerveau lui permettent de se réinitialiser dans une certaine mesure après avoir réduit sa consommation de sucre et l'exercice physique, Yvan sera content que je dise ça, peut améliorer ce processus. Donc, les aliments aussi, il faut savoir, riches en gras, comme en gras oméga-3, c'est présent dans l'huile de poisson, les noix et les graines, sont également neuroprotecteurs et peuvent stimuler les substances chimiques du cerveau nécessaires à la formation de nouveaux neurones et donc de nouveaux messages. Pour terminer, le premier pas est souvent le plus difficile, mais les changements à l'alimentation deviennent en général de plus en plus faciles avec le temps et peut-être que on se sentira mieux et on sera peut-être en meilleur contrôle de notre cerveau, je ne sais pas. Voilà.
Merci
mangez
beaucoup.
Mangez pas trop de chocolat, donc, à Pâques.
Non, les meilleurs. Hein? On n'est pas obligé de manger trop de sucre, mais quand on décide de manger sucré, mais on se concentre sur des choses de qualité, si je peux dire, le bon sucre
oui,
à la crème bien fait maison.
Du chocolat, Hélène, à plus de 75% en teneur de chocolat.
Oui.
C'est déjà beaucoup mieux que tous les chocolats où il y a du sucre de canne.
Sirop de maïs.
Sirop de maïs. Oh, ça, c'est l'horreur.
C'est même pas bon. Et donc, même le chocolat noir, là, ça peut faire en sorte que la dopamine se fait sentir, là, ce qu'on appelle l'hormone du bonheur?
Ah, ben je pense que oui.
Oui.
En tout cas, essayez-le, vous allez l'adopter, puis avec le temps, on monte à 80, 85, 90. Moi,
oui.
Je suis une adepte de 90% de chocolat.
Oui.
C'est tellement bon.
Moi
un
aussi.
Petit carré par jour, c'est bon.
Mathieu est comme vous, il adore le chocolat à 90%
de cacao.
Alors, Monique, vous restez avec nous après la chanson. On va parler maintenant de l'autisme à l'âge adulte. Et puis aussi, il y aura une capsule linguistique. On va notamment parler de Pâques. À tout de suite. Alors, on y va donc avec votre deuxième sujet en ce qui concerne l'autisme chez les personnes plus âgées, à partir de 21 ans?
Oui, je pense que quand on passe à l'âge adulte, peut-être même 18 ans, c'est pas mentionné dans la recherche. Mais rappelons, Hélène, que c'est le mois de l'autisme, hein,
oui,
le mois d'avril. Donc, cet article qui a été publié dans la dernière édition de Québec Science, sous la plume de Émilie Parent-Bouchard, me paraissait fort pertinente. Elle nous dit que jusqu'à présent, en fait, l'autisme s'est surtout concentré sur l'intervention auprès des enfants. On accorde par ailleurs de plus en plus de place au vécu et au bien-être des adultes qui peuvent contribuer à l'avancement de la science. On peut penser à des difficultés telles dépression, troubles anxieux, comportements suicidaires, utilisation problématique d'Internet, abus de substances, victimisation, problèmes d'identité. Ouh! Tout ça, ben, les autistes sont plus susceptibles de vivre des situations complexes que la population générale. En plus donc de poursuivre la documentation de ces phénomènes, la recherche tente maintenant de développer des interventions sur mesure pour les adultes autistes. Il semble que le Québec occupe une place de choix dans la recherche sur l'autisme. Ben, à cet effet, on apprend dans l'article que la professeure en psychoéducation Marie-Hélène Poulain vient de recevoir la plus importante subvention de recherche en sciences humaines jamais octroyée à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Bravo!
Oui, vraiment, une somme de 2,6 millions, en fait, pour établir un continuum de services pour la population autiste lors du passage à l'âge adulte et aussi, et c'est bien important, à mettre les expertises en commun. Madame Poulain connaît très bien le sujet, non seulement parce qu'elle fait de la recherche et qu'elle est psychoéducatrice, mais elle est aussi mère d'un enfant neurodivergent. Donc, sa recherche couvre toutes les étapes de développement des jeunes,
Elle vise d'abord à outiller les parents d'enfants autistes et les enseignants à faire de la vulgarisation scientifique ainsi que de la sensibilisation. Ses travaux se penchent aussi sur les moments marquants de la vie, dont les premières expériences des jeunes. Aborder ces sujets qu'on qualifie novateurs a permis à la chercheuse de constater la collaboration difficile entre les services de santé requis par les individus ayant un trouble du spectre de l'autisme, ainsi que l'absence de directives d'intervention adaptées. Les services au Québec sont beaucoup organisés en silos, en programmes. L'interprogramme n'est pas toujours facile, mais comment traiter une dépendance sans considérer l'autisme de la personne? C'est pas la meilleure des avenues, on en convient. Au chapitre des dépendances, par exemple, tout est encore à faire en recherche selon Marie-Hélène Poulain. Internet, les jeux vidéo, les jeux de loterie ne sont pas beaucoup étudiés. Et pourtant, la population autiste vit énormément d'anxiété, ce qui pourrait être problématique. Il n'y aurait qu'une vingtaine d'études sur les dépendances avec abus de substances chez les personnes autistes qui sont disponibles et la grande variabilité de leurs résultats appelle à poursuivre les recherches. La professeure Poulain a cofondé le groupe de recherche pour les adolescents et adultes autistes avec sa collègue Stéphanie Fecteau afin de démocratiser l'accès à la connaissance. Une étude suggère que 77% de la population autiste adulte a vécu à un moment ou à un autre de sa vie un épisode de dépression ou de troubles anxieux. 77%, Hélène.
C'est très élevé.
C'est très élevé. Si on compare la population générale, c'est 7%. L'écart invite à considérer la communauté autistique comme marginalisée et minoritaire. S'il y avait plus d'ouverture de la part d'une société, les taux seraient plus comparables. La participation et l'acceptation sociale sont pourtant des conditions indispensables au bien-être des adultes autistes. D'ailleurs, le concept de stress minoritaire, c'est-à-dire le niveau de stress plus élevé subi par les populations stigmatisées comme la communauté LGBTQ+, ou les personnes racisées, inspire les chercheurs. Elle nous parle aussi de camouflage. Cacher ses traits et adopter des comportements observés chez quelqu'un d'autre, ce serait une stratégie souvent rapportée chez les adultes autistes, particulièrement chez les femmes. C'est épuisant de toujours avoir à dissimuler qui on est pour être capable d'être inclus, accepté. C'est pourquoi les deux chercheuses accordent une importance particulière à la participation pleine et entière des autistes à la recherche. C'est tellement intéressant ce qu'elles proposent. Elles plaident d'ailleurs auprès des universités et des fonds de recherche pour que ces précieux partenaires soient rémunérés à leur juste valeur en leur faisant signer une entente de travail et non pas simplement un formulaire de consentement à la participation. Outre donc les professionnels de la santé, la professeure Poulain accorde depuis plus d'une décennie une place de choix aux autistes et à leur vécu expérientiel dans ses travaux. Elle veille de plus à ce qu'ils soient mis sur le même pied d'égalité que les chercheurs et les intervenants au sein des communautés de recherche. L'un des aspects que le Continuum Autisme, ce qu'elle a créé là comme organisation, souhaite développer concerne notamment le recours aux pères aidants qui commence à être utilisé en Europe et au Canada auprès des autistes. Alors, la pères aidance a fait ses preuves en santé mentale, nous rappelle Mme Poulain. Donc, elle veut former des autistes qui soutiendront d'autres autistes et ils sont en communication avec le service de formation continue de l'université où elle œuvre, donc l'UQAT, pour développer une formation adaptée qui va pouvoir être offerte dans toutes les régions pour ensuite l'intégrer à la trajectoire de service pour les adultes autistes. Alors donc, les adultes sont aujourd'hui sur le radar des universités. Les deux spécialistes s'entendent pour dire en fait, lever un drapeau, encore une fois. Attention, attention, le vieillissement de la population forcera le microcosme de la recherche en autisme à s'intéresser aussi aux personnes, aux clientèles plus âgées. Ce sera aussi important d'accompagner les autistes quand ils vont faire la transition vers les services pour personnes âgées, anticipe Marie-Hélène Poulin. De quoi donc alimenter la recherche sur l'autisme encore longtemps? Mais on peut la féliciter de cette création de pairs aidants. C'est probablement un gage de succès. Et je poursuis avec un tout petit texte qui parle des animaux comme moyen de diminuer le stress. Alors Stéphanie Fecteau, qui collabore avec Madame Poulin, a travaillé à l'élaboration d'un programme d'attribution de chiens d'assistance à de jeunes adultes autistes. Le stress vécu par ces jeunes adultes lors de la formation de 7 jours pour apprendre soin de leur animal l'a amené à se pencher plus tard sur l'adaptation pour les autistes du programme D, trait d'union, stress et progress, conçu par la chercheuse Sonia Lupien du Centre d'études sur le stress humain qu'on entend souvent à la radio, de Radio-Canada. Elle croit que poursuivre la démonstration scientifique des bienfaits de cette stratégie de gestion du stress pourrait contribuer à la participation sociale des autistes. La chercheuse attend d'ailleurs des nouvelles d'une demande de financement présentée avec une collègue de la faculté de médecine vétérinaire au Fonds de recherche du Québec, là, ce qu'on appelle le FRQSC, pour étudier la relation de l'enfant avec le cheval en équitation thérapeutique. Et je la cite, elle nous dit « Je veux rendre le recours aux animaux d'assistance non anecdotique, mais soutenu scientifiquement. Tout ça pour que les assurances le reconnaissent, que les milieux publics le reconnaissent, pour que si, par exemple, la personne amène son chien au restaurant, ben, ça ne soit pas vu comme un caprice. Si elle ne l'amenait pas, peut-être qu'elle n'irait tout simplement pas au restaurant. De quoi donc alimenter la réflexion en ce mois d'avril, mois de l'autisme.
Très encourageant tout ça. Merci beaucoup, Monique. On se retrouve tout de suite après la chanson.
D'accord.
Par Michel Berger, mais ici on était dans autre chose, plus dance, la Zara donc, sur Canal M. Monique, maintenant on y va avec des brèves. Vous avez des gens à saluer, à féliciter?
Oui, mais oui. Québec Science, chaque année, a un grand concours. Là, désigne le grand prix des 10 découvertes de l'année 2022. Ben, ça a été remis à l'équipe de Sébastien Rodrigue de l'Université de Sherbrooke le 22 mars dernier. Alors, le groupe a mis au point une approche qui élimine de façon ciblée des bactéries intestinales nocives en tirant profit du mécanisme d'échange de gènes entre les bactéries et l'outil dont on a amplement entendu parler, Hélène, le CRISPR. Alors, le public a voté pour cette découverte dans une proportion de 27%. Alors, on félicite cette belle équipe de l'Université de Sherbrooke.
Toutes nos félicitations. Et quelle nouvelle espèce animale s'est révélée vulnérable à la grippe aviaire?
Ah, mon Dieu, c'est le phoque, Hélène.
Ah oui?
Oui, alors il y a plus de 330 phoques qui sont morts en juin et juillet dernier en Nouvelle-Angleterre de la grippe aviaire H5N1 qui frappe le monde depuis quelques années. Semble-t-il que c'est le premier mammifère marin qui se révèle susceptible d'attraper la grippe aviaire qui a touché, on le sait, des élevages de furets, des ours et de nombreux oiseaux marins. Source probable, ces oiseaux marins, de la contamination des phoques. Il y a plus de 6 500 000 oiseaux d'élevage qui sont morts ou ont dû être abattus à cause de la grippe aviaire au Canada en 2022.
C'est énorme. Allons-y donc avec une capsule linguistique, Monique. Oui. Acheter la parole de quelqu'un, est-ce possible?
Donc on ne parle pas de Pâques, Hélène?
Ah oui, après?
Après? Ah, okay.
On a du temps. On a tout notre temps.
J'ai tous mes petits livres à ouvrir, là.
OK, est-ce que vous vouliez y aller tout de suite avec Pâques, dans ce cas?
Non, non, c'est beau, je suis prête, il n'y a pas de souci. Alors, bon, acheter, normalement, c'est pour acquérir un bien ou un droit contre un paiement. Et au figuré, on peut dire qu'on achète la paix. Par contre, l'expression populaire « je n'achète pas ça », vous le devinez, Hélène?
Ah oui, c'est pas du bon français, ça.
C'est une expression, ça vient de l'expression anglaise « I don't buy that ». Dans la langue familière, on peut utiliser les verbes « gober » ou « avaler » pour exprimer le fait de croire naïvement à des faits ou des concepts dont l'authenticité est douteuse. On va éviter de dire « vous ne croyez quand même pas ce que je vais acheter ça », on dira plutôt « vous ne croyez quand même pas que je vais avaler ça ». Dans la plupart des cas, on pourrait aussi utiliser le verbe « croire ». On évitera de dire « je n'achète pas ce que vous dites », on dira plutôt « je ne crois pas ce que vous dites » ou tout simplement « je ne vous crois pas
». Et Monique, le verbe « j'achète » n'existe pas.
Ah ben non!
Bon, alors vous à Pâques, là, quel est votre menu?
Ah,
si c'est pas trop indiscret.
J'ai trouvé des tartines, je pense que c'est Ricardo qui suggère ça, avec des cèpes et puis un œuf poché.
Pour le brunch?
Oui, c'est ça.
Est-ce que ça se fait sans électricité?
Salade de betterave avec du feta aussi et mimosa, certainement.
Ça va être bon. Et Mathieu s'inquiète, est-ce que ça se fait sans électricité? Parce qu'il aimerait vous copier. Il aimerait vous imiter.
Non, on n'a pas d'électricité. Ouais.
Non. Alors, peut-être qu'on en aura, à Montréal, d'ici pas qu'on le souhaite. Il y a un petit miracle, peut-être, qui va se passer. Et j'imagine que vous allez aussi croquer dans quelques morceaux de chocolat 90 % de cacao.
Oui, 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 tout à fait.
Tout cela pour parler de Pâques linguistiquement, donc, parce qu'on entend souvent « Je te souhaite une joyeuse Pâques » et je pense que c'est pas correct. Hein.
Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Pâques avec un S, puis il y a Pâques sans S.
Ah oui?
Alors, Pâques sans S, c'est la fête juive.
Ah, d'accord.
Alors, à ce moment-là, il est féminin singulier et on va dire « la Pâque ».
Mais on ne dira pas « je te souhaite la joyeuse Pâques ».
Ben, on va dire,
on
va dire fêter la Pâque, veillée familiale de la Pâque. Je cherche si on dans le texte que j'ai trouvé, on dit pas joyeuse Pâque.
Non.
C'est ce que je vois. Par contre, la fête chrétienne, qui est catholique et protestante, là, ben s'écrit avec un S. On dit que c'est masculin singulier sans déterminant. D'accord? Alors,
ouais.
Si on dit célébrer Pâques, Pâques est précédé de la Semaine Sainte, hein, c'est au singulier. Mais si on ajoute le jour de Pâques, alors là, il est singulier toujours, oui, toujours, mais on va dire... on a eu des Pâques pluvieuses, où je vous souhaite de bonnes, de joyeuses, d'heureuses Pâques.
Bon, alors on sait tout maintenant.
Et donc, si on le met au singulier, c'est qu'on n'est pas dans la bonne fête.
Non, non. Et puis,
en ce qui concerne... La confusion vient parce que certains moments, c'est très près, hein, l'une de l'autre. Mais non, c'est toujours, c'est pluriel.
Oui, alors on sera un peu plus indulgent la prochaine fois, puis on donnera l'explication peut-être si la personne devant nous est ouverte et intéressée à en apprendre davantage, comme nous on l'est.
Oui, c'est ça. J'avais trouvé ça sur le blog d'Antidote.
Merci pour la source. Et la chasse au coco, est-ce qu'on dit la chasse au coco ou la chasse aux œufs?
Vous choisissez celui qui vous fait plaisir.
Moi, ouais, quand je me fais courir après, c'est la chasse au coco.
Ah oui, oui, oui. Oh, c'est pourquoi.
Bon, alors là-dessus, Monique, merci. Hein, vous avez été vraiment formidable, comme la chanson de Charles Aznavour, même si on a écouté hier encore.
Mais formidable, on pense aussi à notre pauvre Stromae.
Ah oui. Il va
est
pas
un
bien.
Peu fatigué encore.
Oui, il a annulé sa tournée là, parce qu'il est vraiment encore en burn-out. Finalement, il pensait qu'il était remis, mais non, il
ah,
a besoin
c'est le burn-out,
de...
c'est vraiment ça?
Oui, d'après ce que j'ai lu, là, il a besoin de se reposer, comme bien des gens. Mais Stromae, étant donné qu'il est une vedette, bien, ça fait la une. Et aussi, il y a des gens qui avaient acheté des billets. Là. Nous, on a eu la chance de le voir à Montréal, mais... Là, c'est terminé pour un petit bout de temps. C'est mieux qu'il s'arrête et qu'il revienne en pleine forme.
Oui, mon Dieu, son dernier disque était tellement incroyable.
Oui.
On lui souhaite un bon rétablissement, mais on souhaite à tous nos auditeurs de joyeuses Pâques.
Oui, alors Monique, demain, il n'y a pas de Au quotidien 5e édition, hein, c'est le vendredi saint.
Ben non, je suis en congé.
Oui, bon congé de Pâques avec votre chérie et tous ceux et celles qui seront à votre brunch dimanche. Est-ce que ça se passe dimanche?
Oui, ça se passe dimanche, oui.
Amusez-vous bien et délectez-vous bien. Au plaisir de vous retrouver.
Merci, Hélène.
Merci, à bientôt.
Merci.
Merci.
Au revoir.